C'est magnifique. C'est bien, Nono est dans les jingles maintenant.
Et il part vraiment pisser.
Ouais, et comme tu n'avais pas coupé le son, on l'entend et c'est gardé, ça, c'est
parfait,
magnifique.
Parfait.
Merci, notre ami Nono. Du coup, Loïc, première chronique du coup, de la soirée. Première chronique pour toi. Tout le monde passe la première fois, là. C'est la première de tout le monde. On a l'impression que c'est l'exposé en classe. Alors, lundi, machin et bidule passent. Ensuite, ça fait vraiment cet effet-là.
Non, mais là, on est vraiment, Loïc, très content de t'avoir. On t'a eu en interview la saison dernière, en invité. On a découvert ton univers très complexe. Tu t'intéresses à 10 000 trucs. Alors, bon, déjà, tu es donc dessinateur. Tu as sorti, là, il y a quelques jours, peut-être une semaine, le premier chapitre de ta BD. Dont on a discuté tout à l'heure et qu'on a très hâte de lire. Et l'autre chose à laquelle tu t'intéresses beaucoup, bah, c'est l'espace. Tu nous avais parlé notamment de pas mal de trucs, du logiciel qui permet de simuler par exemple les astres, etc. Et donc, on t'a invité, tu nous fais le plaisir de nous rejoindre pour cette saison du YOLO Show, pour une chronique qu'on a intitulée « Passion d'espace, c'est kitsch à souhait ». Et on espère que tu nous feras rêver avec ta passion qu'on sait débordante pour l'espace. Donc voilà, je ne sais pas quel est le sujet d'aujourd'hui, mais je suis très très curieux déjà.
Alors, le sujet d'aujourd'hui, je me dis, alors soit est-ce qu'on va sortir un sujet totalement sorti nulle part, vous voyez, parce qu'en vrai, bon, l'astronomie, c'est, on peut aborder tout et n'importe quoi, vraiment.
Large.
Ça peut nous concerner comme ne pas nous concerner, mais pour le coup, on part sur des bonnes bases pour aujourd'hui. Pour une première chronique, je me suis dit que c'est pas mal de démystifier certaines choses par rapport à l'astronomie. Le domaine, même la notion même d'astronomie, ben, c'est pas toujours ancré chez les gens, même culturellement, de manière générale. Donc, on est là un peu pour juste se demander c'est quoi l'astronomie.
D'accord.
Et donc, pour ça, on a fait un sondage. Enfin, j'avais bien, je sais pas si vous parlez du sondage maintenant, mais j'avais fait un petit sondage. Donc, c'est sur Twitter avec... sur le YOLO Show que ça a été posté. Et juste pour avoir une idée pour ce qui est des résultats, pas du coup, si on peut parler des résultats vite fait, eh bien, c'est pas très surprenant, puisque alors, de ce que j'ai vu, je regarde rapidement les chiffres que l'on m'avait donné. Donc, le résultat, c'était... Alors, j'avais proposé quatre types de passions, enfin, de niveaux différents pour l'astronomie. Donc, désintéressé, ok, simple curieux, grand passionné et astronome amateur. Donc, bon, ça diffère, selon moi, sur les quatre que j'ai pu poser, définir de base. Voilà, et en vrai, la plupart, les chiffres, je trouve, sont très révélateurs, ne mentent pas tellement, même si bon, le nombre de votes est peut-être aurait pu être mieux, mais c'est en vrai quand même très représentatif. On a la majorité des gens qui sont curieux, et l'autre moitié qui sont très investis dans l'astronomie. Et c'est pas du tout étonnant, en fait.
Alors, moi, je suis au milieu, hein. Je suis passionné, mais pas investi.
Ah, c'est toi, ok, c'est toi.
C'est un feignant, voilà. L'autre, tu vois, il regarde de loin, mais ça te fait chier de sortir la nuit, quoi.
C'est quoi que t'as, derrière, t'as ta petite étagère, il y a quoi comme bouquin
Il n'y est pas là, je l'ai pas remis.
Ah, tu l'as pas remis, t'es en train de le lire peut-être.
Ouais, exactement, je suis en train de le finir, c'est la biographie d'Elon Musk, évidemment.
Oh.
Et c'est ton livre d'étagère.
Et parce que j'aime bien Musk, j'aime bien... Moi j'aime bien le côté technologie, et le côté, par exemple, les lancements de SpaceX, je les regarde, et j'aime bien le côté espace... nouvelles frontières, tu vois, l'aventure humaine et technologique, j'aime bien ça.
Donc voilà, et du coup, je voulais revenir un peu au sujet d'aujourd'hui de la chronique. Parce que voilà, pour commencer, déjà, qu'est-ce que vous savez sur l'astronomie? Comment est-ce que vous diriez, vous définirez l'astronomie?
Moi, je dirais qu'on fait ça depuis des siècles et des siècles, voire des milliers et des milliers d'années, puisque les Mayas, etc. L'astronomie, c'est vieux comme la civilisation.
Alors, évidemment, l'étude des astres, quoi. Ouais.
L'étude des astres, quoi.
C'est une question, mais oui. Je sais pas si c'était une question, mais oui, en effet, depuis très longtemps, c'est ancré dans la nature humaine.
L'étude des étoiles. Mm-hmm. Des astres.
Et on y trouvait une utilité parce que on gérait l'agriculture, etc. Il y avait tous les cycles de la vie qui étaient par rapport aux observations astronomiques. Alors aujourd'hui, moins, évidemment, mais c'était vraiment très, très, très important dans notre culture et dans les civilisations passées.
En effet. Et au final, aujourd'hui, c'est beaucoup plus sorti de notre vie actuelle, hein, de la vie qu'on mène actuellement, ces dernières dizaines d'années, en fait. Et donc, c'est un peu dommage. Et je trouve que, justement, il y a encore des gens qui restent malgré tout très passionnés. Malheureusement, pas la plupart des gens. Donc, comme je l'ai dit, la plupart des gens sont à peine juste curieux. Donc, c'est pour ça qu'on aime bien amener le sujet auprès des gens, etc. Parce que, voilà, ça fait partie de nous, au final, aussi, de ce, où on vit, etc. Mais bon, on va en venir après à ça. Mais il y a beaucoup de choses à dire en si peu de temps. Donc,
voilà, c'est la technologie, moi, je pense, qui fait... voilà, juste pour ça, c'est... Zello, lui, c'est la technologie qui lui fait aimer ça. Et je pense que c'est les gens majoritairement... C'est le côté un peu technologique qu'il y a autour vis-à-vis de... On parlait d'Elon Musk, mais il y a d'autres choses, voilà, qui fait que les gens aussi, ils portent un intérêt encore plus grand que simplement se dire l'astronomie ou autre, c'est rien que lever la tête quand il y a une nuée étoilée ou autre, c'en est déjà, quoi. Et
Bon. C'est normal, c'est pour ça que ça implique un maximum de gens, en fait. N'importe qui peut être concerné par ce domaine. Et pour apporter une première définition de ce qu'est vraiment l'astronomie, pour dire, voilà, les gens pensent à quelque chose de compliqué, des sciences, des maths, des trucs comme ça, et ben non, pas du tout. Ça, c'est pas du tout le cas, en fait, concrètement. La définition la plus simple qu'on peut donner de l'astronomie, c'est que c'est une science, bon, comme les autres sciences, que ce soit la biologie, la physique chimie, etc. Mais elle vise que l'étude des astres et du ciel, pour être très globale. Donc, ouais, il faut différencier avec l'astrophysique. Souvent, les gens vont dire, il y a l'astrophysique et tout. Non, l'astrophysique, c'est pour expliquer, justement, les phénomènes qu'on observe dans l'astronomie.
Comme déjà. Les trous noirs et...
Bah voilà, expliquer comment fonctionne un trou noir, leur activité, tout ça, voilà, là, ça rentre dans l'astrophysique. Alors qu'il y a aussi, à côté, bah, il y a aussi l'astrologie, qui, elle, est considérée comme pseudo-science. Donc voilà, je ne porte absolument aucun jugement sur les gens qui se passionnent d'astrologie. Mais voilà, c'est vraiment à séparer. Beaucoup de gens s'amusent à mélanger les deux, mais ça, les astronomes n'aiment pas trop. Donc voilà, et donc voilà, ça donne à peu près une approche globale de ce que c'est l'astronomie, mais l'astronomie, c'est donc une définition, mais c'est pas que ça, bien sûr. C'est différentes parties, je dirais, que j'ai moi-même définies comme étant les plus importantes, au moins pour juste partir. Là, après, c'est quelques dizaines de minutes, non, pas forcément, mais voilà. On se dira, voilà, je sais que c'est ça l'astronomie, puis voilà, pour avoir une base. Donc premièrement, l'astronomie, c'est une notion d'échelle. Une notion d'échelle, c'est-à-dire qu'on est dans un univers qui comporte plusieurs échelles, tellement qu'il est grand, tellement que nous, on est petit. Eh bien, il faut savoir démystifier toutes ces échelles dans l'univers. Donc, on a, par exemple, nous, notre échelle, hein, le mètre. Après, on a donné des unités de mesure, l'année-lumière. Donc, ça, c'est encore plus grand. Entre les deux, l'unité astronomique, voilà. Donc, par exemple, pour se rappeler à quel point on est petit dans l'univers, vous voyez la Terre et le Soleil, ok? Si je décide de prendre la Terre et que je la réduis à la taille d'une bille, ok? Comparé au Soleil, vous pensez que le Soleil est combien de fois plus grand? Ou on peut le comparer avec l'objet à cette échelle?
100 fois.
À cette échelle, il est comme un bus.
Ah. 100 fois. Mmh. Enfin, alors là, c'est la valeur qu'il a donnée, c'est bien ça, c'est 100. Et c'est comparé à une baguette de pain.
D'accord.
Prenez une baguette de pain et ça prend la taille du soleil en comparaison. Donc vous voyez, prenez la taille d'une bille, voilà. Là, on comprend, vous voyez, la notion d'échelle, c'est énorme. Voilà. Je me suis même amusé aussi à calculer, par exemple, la distance Terre-Lune pour trouver des gros chiffres à faire peur. Vous voyez, la distance Terre-Lune, bon. C'est environ 300 000 km la distance. Et si je la rapproche à quelque chose qu'on connaît, si je prends une piscine olympique, tout le monde connaît à peu près ce que c'est une piscine olympique. Hein. Vous savez combien faudrait une piscine olympique pour faire cette distance? Il en faudrait peut-être à peu près combien, l'ordre de grandeur?
Quelques millions.
Bah, 60 000.
Il en faudrait exactement 6 800 000.
Ah, ouais. On est un peu loin, quoi.
Et donc, si je m'amusais à me dire qu'il faut... Alors, j'ai calculé 23 secondes il faut pour nager dans... Faire un aller dans une piscine olympique, il faudra au total 5 ans à la nage pour faire cette distance.
Ah oui.
Et la Lune, on la voit tout le temps dans le ciel. Et on n'y pense pas toujours qu'à quel point c'est loin, quel temps. Et alors, donc ça apporte ça, l'astronomie, dans un premier temps.
Il y a un astéroïde qui nous a frôlé, je crois, hier ou avant-hier. Et il est passé à 250 000 km. C'est-à-dire plus près que la Lune.
Un peu plus près que la Lune. Un petit peu plus.
Putain, ma bagnole, elle avait 250 000 à l'époque.
Analogie, hein.
Putain, je l'ai vendu. Ouais, si, je l'ai vendu.
Et donc, du coup, voilà. Et après, une deuxième partie que ça apporte également, qui est aussi, je trouve, très intéressante, il y a une autre anecdote après avec ça, c'est la notion de la composition de l'univers. Voilà, on étudie l'univers pour savoir de quoi il est fait. Donc, je ne parle pas de matière, je ne parle pas de composition chimique, physique. Non, je parle en termes d'éléments d'astres, en fait. Donc, l'univers, c'est quoi? C'est des planètes, des satellites. Donc c'est des galaxies, c'est des étoiles, c'est beaucoup de choses, beaucoup plus variées que ça. Mais globalement, voilà, c'est les principaux éléments qu'on peut citer. Et donc, par exemple, bah, pour donner une petite anecdote, est-ce que vous savez, par exemple, quand vous êtes sur Terre, la nuit, en se disant que l'univers est si vaste et genre partout où on va regarder, il y aura toujours quelque chose, hein, ça, il faudra toujours se dire ça. Mmh. Pourquoi est-ce que la nuit est-elle si sombre, du coup?
Parce qu'on,
il n'y a pas assez de lampes allumées.
La Terre tourne.
Parce que c'est trop loin, tout coup, ce qu'on regarde, soleil, c'est trop loin.
Il y a une première approche à ce niveau-là pour l'eau. Si je prends, pour faire une analogie avec ce qu'on connaît, juste pour réfléchir un peu plus, si vous prenez une chambre, okay, une taille finie, vous prenez une ampoule qui a une certaine intensité, elle va briller une certaine intensité aussi. Si je prends, par exemple, un nombre d'ampoules définies, genre 30 ampoules, ça va être hyper brillant, hein, faites attention. Bon, elle va briller énormément, okay, dans la pièce. Si je prends cette fois-ci un stade, que je prends ces ampoules et que je les étale sur tout le stade.
Il y a les mêmes nombres d'ampoules, aussi... mais l'espace est plus grand, ouais.
Non, on n'y verra rien. Exactement. Oui, c'est sûr.
Et donc, on n'y verra rien. Enfin, on verra même que ça se trouve quasiment rien.
Il y a aussi un autre phénomène qui va paraître un peu absurde, mais en fait, on ne voit qu'une minuscule partie autour de nous, qui est une sorte de sphère, parce qu'en fait, la lumière, la vitesse de la lumière, qui est 300 000 km/s, en fait, c'est rapide, mais c'est moins rapide que l'expansion de ce qu'il y a au-delà de cette sphère. Donc la lumière des trucs qui se barrent plus loin que cette sphère va pas assez vite pour nous arriver. Elle nous arrive jamais.
Oui, bon, ça c'est, ouais, c'est une notion beaucoup plus compliquée, mais alors, ça
allez,
c'est
attention,
pas
l'eau qui commence à.
Là, tu fais des trucs un peu plus. Enfin là c'est très pointu donc.
Et d'ailleurs en termes de nombre, ce que disait Yatik dans le chat, quand on parlait de quantité, c'est de piscine ou autre, c'est que là il disait que c'est entre 1000 et 1 million quand on dit que c'est. Quand on dit que c'est 200 000 fois plus grand ou 1 million de fois plus grand, bah c'est une échelle qui est trop grande pour nous. Donc, on n'arrive pas à se rendre compte aussi de quand on dit 1000 ou 1 million. Déjà, 1000 fois plus grand, c'est immense.
On n'a jamais vu autant, c'est normal.
Ouais, c'est trop.
C'est beaucoup trop grand.
C'est le problème avec l'espace. Et Loïc a raison, on ne se rend pas compte. Même si on fait l'effort d'essayer de trouver des échelles et tout, c'est impossible de se rendre compte de l'immensité du truc.
Bah déjà, rien déjà que l'environnement immédiat, c'est difficile, mais bon, quand on sait que l'univers est si vaste, franchement, ça complique les choses. Donc c'est ça que j'essaie de bien, les gens essaient de faire ça, ils font ce travail des fois très bien. C'est ce qui est cool. Et enfin, une troisième notion aussi que ça apporte, il y en aura une quatrième du coup que je vais garder pour après, c'est que c'est où on est. Parce que ça, je pense que la plupart des gens, vous leur demanderez où on est dans l'univers, beaucoup de gens ne pourront pas vraiment vous répondre. Eh bien, on a, comme on dit, une adresse cosmique, quelque part, on va dire. Donc, on peut se positionner dans l'univers. Alors, pas dans tout l'univers en son ensemble, parce qu'on ne pourra jamais le voir en entier, mais là où on est, en tout cas, jusqu'à un certain point, on peut savoir où on est. Donc, on part de la Terre. Par contre, je n'ai pas pensé d'ailleurs, et ça, c'est la seule image que j'ai oublié d'envoyer, c'est l'image de plusieurs images sur ça. C'était qu'on part de la Terre, donc vous avez la Terre. Après, vous avez la Terre autour du Soleil, qui tourne en orbite autour du Soleil. Vous continuez à vous éloigner, et là, vous aurez le Soleil qui est dans le bras de la Voie lactée. Il faut s'imaginer une galaxie spirale, comme on connaît. Et dans cette galaxie spirale, parce que ça va encore plus loin, il y a un amas, c'est ce qu'on appelle le groupe local, avec plusieurs galaxies, dont Andromède, que vous connaissez bien. Et on continue à s'éloigner, on s'éloigne, et puis après, on aura une image de l'univers avec plein de filaments. Mais j'aurais dû sortir les illustrations, et je les ai pas prises.
Vous imaginez, hein. Ah, tiens, derrière Yati qui posait la question, il l'a trouvé lui-même, il parlait du l'article sur l'astéroïde qui nous aurait frôlé.
Alors il était assez relativement petit, je crois, hein. J'ai lu que c'était la taille d'un minivan. Donc ça va.
Fait mal sur la gueule si tu te le prends.
Il nous aurait pas éradiqué, je pense.
Oui, non, quand même pas. Bon, ça peut faire des dégâts, mais ça dépend. Après comment il rentre, où il tombe, ça dépend. Plein de
parce qu'en pleine ville, oui.
En général, ils explosent.
C'est encore vivant. Hein.
Ils explosent au-dessus de la Sibérie.
Il peut nous sauver.
C'est vrai, il est encore là pour l'instant.
Heureusement, on peut s'estimer.
Sinon que faire.
Et enfin, le plus important, parce que là, j'ai parlé un peu des trucs les plus barbants, hein. C'est clair de dire, ok, bon, jusque-là, allez, imaginons. Mais après, bah, là, le petit plus, et je trouve que c'est ce qui est le plus beau dans l'astronomie, c'est que c'est un domaine qui se pratique, mais qui se pratique par tout le monde, qui peut se pratiquer partout. Et donc, là où je veux en venir, c'est qu'on peut pratiquer de différentes manières l'astronomie. Les trois principales, c'est lesquelles? Comme tu l'as dit tout à l'heure, d'ailleurs, mon cher...
Ouais, moi-même.
C'est l'œil nu. Quand on est dit à l'œil nu, bah, du coup, on peut juste s'asseoir, observer les étoiles. On peut observer même plus que les étoiles, il ne faut pas croire qu'il n'y a que des étoiles. Comme tu as dit, il y a les étoiles filantes, il y a aussi ce qu'on appelle, par exemple, les élongations, les mouvements rétrogrades des planètes. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut voir, hein, vraiment, qui sont très intéressantes. Ouais, tout à fait. C'est en gros, en fait, pour expliquer vite fait ce qui est rétrograde, vous voyez, Mars, c'est la planète, des fois, dans son orbite, on la dépasse à un moment donné. Puisque nous, on va plus vite sur notre orbite que Mars, quand elle tourne autour du Soleil. Et au moment où on la dépasse, en fait, dans le ciel, Mars, on aura l'impression qu'elle va reculer. Elle va repartir en arrière, et après, elle va se redéplacer en avant. Et donc ça, c'est le phénomène rétrograde de la planète. Mais ça, c'est de notre point de vue, hein, bien sûr. Elle ne recule pas vraiment. Hein.
Oui, voilà. Mais ça peut s'observer. Faut pas être en ville, quoi.
Voilà. Mais en fait, ça s'observe sur des jours, les semaines, en fait. Et vous verrez, le jour où il y a ce phénomène, vous pourrez le voir, la planète qui recule comme ça dans le ciel. C'est assez intéressant, je trouve. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a les jumelles, parce qu'on pourrait bien me dire, allez, les télescopes. Non, il y a les jumelles avant, et ça, on ne pense pas toujours aux jumelles. Elles sont vraiment très bien pour démarrer, si on est un peu trop timide pour se lancer dans des plus gros instruments. Ça permet déjà de voir pas mal de choses. On peut commencer à voir un petit peu la Lune, hein, les détails et tout. On peut voir, alors si elles sont équipées d'un filtre solaire, le Soleil également. Si vous avez un petit trépied pour vous poser. Et on peut voir pas mal de choses, hein. Pas seulement mater les voisins.
Hein. C'est ça qui est bien. Alors, Yatik nous demande la pollution lumineuse, si ça permet de faire tout ça. Bah, regardez la Lune, oui, bien sûr. Après, c'est vrai que les étoiles, il vaut mieux être un peu dans la nature.
Ah, c'est... Ouais, je confirme qu'en effet, alors pour ce qui est de la pollution lumineuse, brièvement, c'est que c'est mieux pour observer le ciel profond. Le ciel profond, c'est tout ce qui est plus loin que notre système solaire, en gros, pour la plupart. Tout ce qui est après les planètes, la Lune, etc., dans notre entourage, notre environnement immédiat, on va dire, c'est observable même en plein Paris. Il n'y a pas de problème.
Moi, à chaque fois que je me retrouve dans la campagne et que c'est le ciel étoilé avec la Voie lactée, que tu la vois comme si elle était juste devant toi, à chaque fois, je me dis, mais ah oui, c'est vrai, il y a tout ça dans le ciel.
Oui, parce qu'en ville, non.
Je t'ai envoyé, alors si tu veux te montrer, pour quand on parle de la Voie lactée, j'ai envoyé une des photos, la numéro 3, si tu veux vite fait la montrer. D'une photographie prise en Guadeloupe, puisque justement, j'ai cette chance en tant qu'astronome amateur d'avoir un ciel assez unique, je trouve. Et donc, bah, j'ai envoyé chance, j'ai pensé à mettre la photo par contre. Donc, c'est une photo du ciel. Alors, elle a été prise à la pointe des châteaux, okay, donc à l'extrême est de la Guadeloupe. Vous imaginez que c'est un sort de gros papillon avec une pointe, en fait, un petit peu à toute droite, à l'est. Et donc, bah, vous avez clairement que l'océan à perte de vue, en gros.
Donc, pas de pollution lumineuse là. Hein.
Absolument, quasiment. Alors, on en voit un tout petit peu en bas à droite, c'est la ville de Saint-François, mais elle émet très peu.
C'est pour ça que tu as plein d'observatoires scientifiques ou autres qui sont dans le Sahara, mais dans les déserts, enfin dans des endroits très très reculés pour
sur les montagnes.
Dans les montagnes absolument. Ou autres.
Mais bon, malheureusement, il n'y en a absolument aucun ici. C'est vrai que souvent la météo n'est pas toujours tout le temps clémente. On n'en a pas, je ne sais pas combien de jours de soleil par an non plus. Donc, on n'a pas d'observatoire ici, malheureusement, à ma triste nouvelle. Mais on a un ciel quand même magnifique, et pour le coup, heureusement que j'ai un télescope et je peux en profiter tout seul. Donc voilà, j'ai cette chance. Et par la suite, alors après, pour continuer, il restait les télescopes. Donc, les télescopes, c'est clairement les instruments qu'il faut acquérir quand vous vous lancez dans l'observation. Tout d'abord, les lunettes, hein, petites lunettes astronomiques, 80 mm de diamètre à peu près. Alors, prenez pas les jouets, je vais le dire tout de suite, c'est de la prévention, les gens. Ne prenez pas de jouets à jouer club. Je sais pas si vous avez déjà un jour acheté des télescopes chez les magasins de jouets. Pour quelqu'un d'autre, de la famille, etc. Mais
c'est de la merde.
Jamais ne fait ça. Jamais ne fait ça.
Mais pourquoi ? Parce que c'est beaucoup moins cher et c'est une bonne introduction, non ?
Alors, c'est extrêmement pas cher, je trouve, oui, certes, mais la qualité, il n'y est vraiment pas du matériel. Déjà, souvent, c'est du plastique, même pour les lentilles. Alors, du coup, ça ne tient vraiment pas le choc, ça tient très peu de temps. Et souvent, j'ai eu le décès quand on me montrait des instruments comme ça que ça ne marchait pas, en fait. Donc, vraiment, ce n'est pas du tout fait pour ça. Et donc, ce que je recommande, c'est de vous rapprocher dans des magasins, des boutiques en ligne spécialisées. Et je peux vous dire qu'une lunette, c'est vraiment, pour le coup, c'est un peu plus cher que ça, en fait. Mais
le prix d'entrée, c'est quoi ? À partir de combien, tu dis, pour commencer, tu mets quelqu'un qui dit, j'ai envie, tiens, il faut mettre au moins combien, entre combien et combien ?
Moi, je dirais que vraiment, le minimum, à ma connaissance, ça serait 150 euros.
Ah, ça va, j'aurais dit plus.
C'est pas... Vraiment, ça va.
Mais alors, je précise que ça reste du matériel qui vraiment va vous donner... Enfin, ça va vous donner, mais des années. Hein. La plupart du matériel que vous achetez dans le domaine de l'astronomie, ça tient très longtemps.
D'accord. Yatik, tu posais 800 balles le prix d'entrée, mais non, 800 euros, on commence à avoir des choses très très bonnes.
800 euros en Guadeloupe.
Plusieurs niveaux. Ça dépend, non. Alors, bon, moi, pour mon coup, je vais vous dire... Mais je vais vous donner un exemple. Bon, ça, j'ai parlé des lunettes, hein, c'est assez petit. Moi, t'as la photo du télescope, tu peux la montrer, c'est la numéro...
Allié, ouais.
La photo. Allié.
C'est la première, hein, celle-là, ouais.
C'est la première. Donc, c'est mon télescope que j'ai actuellement. Une belle bête, faut le dire.
Mais ça fait quelques années, déjà.
Ça fait très longtemps que je l'ai. Très longtemps que je l'ai. Moi, du coup, je l'ai acheté en ligne. On me l'a fait livrer ici. Et le prix, c'était 400 euros. Voilà. Mais par contre, pour comparer à une lunette, ça va beaucoup plus loin au niveau des possibilités en termes d'observation. Ça, c'est clairement de l'entrée de gamme pour ce qui est du ciel profond. C'est-à-dire que déjà, les planètes, la Lune, etc., énorme. Déjà, j'ai pu voir Saturne, mais comme je ne l'ai jamais vu auparavant. Et après, j'ai pu commencer avec bon, la qualité du ciel que j'ai, heureusement, pas à Paris, hein, mais bah, j'ai pu commencer à observer des galaxies, des nébuleuses. Avec,
mais tiens, tu dis 400 euros le tien.
400 euros, ouais.
Et même 400 euros, c'est pas si onéreux que ça pour quelque chose de qualité. Hein.
Ah mais non, c'est ce que je veux dire, justement, c'est vraiment... Enfin, ça, faut se rendre compte, le matériel... Après, moi, ça fait depuis longtemps que je l'ai là, mais c'est vous l'avez pour, on peut dire, 20-30 ans, hein, le truc, je pense. Hein. Vraiment.
Il y a vraiment moyen de commencer à vraiment pas cher, quoi.
Ah oui, mais voilà, donc tu vois, encore, je parle de télescope. Après, entre les deux, vous voyez, il y a quand même un petit peu de nuance. Hein, et donc, bah, le prix, pareil, se nuance aussi. Je peux vous dire que pour 100-200 euros, vous avez un truc qui est très, très bien pour commencer dans l'astronomie. Parce que quand vous commencez, il faut d'abord maîtriser son instrument, savoir manipuler, etc. C'est très important.
Est-ce que...
Il faut vraiment démarrer ce petit
truc. Et il y a l'étape d'après où tu as le télescope que tu peux programmer, la piloter, qui suit lui-même la course des astres.
Ça, c'est autre chose, ouais. Alors, vous voyez, on a beaucoup entendu parler de modèles, j'ai plus le nom en tête, qu'ils ont lancé, qui est très cher, mais qui se pilote, vous voyez, via un ordinateur ou son portable, qui est un peu design et tout, là. Un peu petit, un peu compact, en fait, mais qui permet justement de faire de l'observation. Personnellement, j'ai un avis assez mitigé, parce que surtout que c'est très cher, et on essaie un peu de toucher les gens qui commencent dans ce domaine avec ça. Mmh. Je trouve que c'est pas très judicieux, parce que on croit que ça simplifie les choses, mais c'est hyper cher. Pour le faire, alors que c'est peut-être mieux de commencer avec un petit instrument.
C'est pour les semi-pro, quoi, ce matériel-là, semi-pro-pro, quoi.
Ouais, vraiment. Enfin, moi,
pour
vraiment,
les amateurs, c'est quelque chose de très loin, quoi.
C'est quelque chose de très spécifique. Alors, souvent, les gens aiment bien voyager avec leur instrument. C'est vrai que pour le coup, ça peut être très pratique.
En
ça parlant, gagne du temps.
Parlant de voyager, la photo numéro 2, les petits trucs dans des boîtes. Je le dis pour le podcast audio, là, il y a trois boîtes avec des éléments, peut-être des lentilles dedans, de rechange.
Tout à fait. Ce sont ce qu'on appelle des oculaires, en fait. En gros, c'est ce qu'on met dans la lune, dans l'ouverture de l'instrument pour observer.
Donc, c'est comme un appareil photo, quoi. T'achètes le boîtier et, en plus, tu dois acheter des objectifs. Donc là, des
petits trucs tout là. Tout à fait. Et donc, en gros, voilà. Bon, alors, ça, je précise que souvent, quand vous achetez un télescope, on vous offre les oculaires. Vous avez quelques oculaires avec. Bon, moi, je me suis acheté des oculaires exprès pour couvrir la plupart de mes observations. Trois oculaires doivent suffire, pas plus. Voilà.
Ça coûte cher des oculaires à racheter à part, non, on a dit, le prix de l'objectif d'un télescope.
Non, quelques dizaines. En principe, alors je dirais que pour un pack de quelques oculaires, ça pourrait être plusieurs dizaines d'euros. Ça ne dépassera pas 100 euros.
Oui, donc ok, ouais, c'est accessible. Ça reste aussi très accessible.
Ça reste aussi très accessible, voilà. Alors après, pour ceux qui vont peut-être oser parler de l'astrophotographie, puisque souvent les gens...
J'allais y venir. J'allais remis ta magnifique photo. Je me suis dit, mais du coup, tu peux pas prendre de photos directement dans ton machin. Tu peux regarder.
Ça, c'est des tentatives donc, que j'ai fait avec mon portable, puisque ça reste possible, mais je vous rassure, c'était hyper compliqué, je galère énormément. Mais j'ai réussi à prendre quelques photos donc, avec un téléphone. Donc il y avait Jupiter et j'en ai pris deux de Saturne, dans celle que je t'ai envoyée. Et donc ça, c'était alors, au moment où on les voyait les mieux, les planètes, elles étaient à leur opposition maximale dans le ciel. On pouvait pas mieux les voir. Et on voit déjà des détails sur les photos, donc je suis assez content. La puissance déjà des smartphones est très impressionnante, vous voyez. Donc c'est déjà super. Par contre, pour faire l'astrophotographie, pour y venir, le matos, j'ai quelqu'un qui a pleuré quand même pas mal pour cette
vidéo. C'est quoi, c'est un truc d'adaptation pour pouvoir mettre le téléphone ou l'appareil?
Non, en fait, il y a plusieurs façons. Alors la plupart des gens vont soit prendre des réflexes. En gros, ils vont prendre des bagues après qu'ils vont mettre au télescope pour prendre des photos. Ça, je pense que c'est la solution la moins onéreuse. Mais c'est plus particulier. Après, ce qui est le plus onéreux, c'est d'acheter carrément des caméras dits CCD, par exemple, des caméras que tu mets, c'est carrément des petits tubes, en fait, que tu mets dans le télescope et qui va prendre les photos, les images. Et
ça coûte combien, ça?
Ça peut coûter plusieurs centaines d'euros.
Et tout mis bout à bout, c'est un budget, hein, quand même.
Et c'est énorme. Mais alors, souvent, il n'y a pas que ça, c'est que souvent, il y a du matériel, les logiciels, l'ordinateur, les câbles, enfin, il y a du branchement. Il faut aussi avoir un télescope qui, comme tu l'as dit, peut être motorisé, donc faire le suivi des astres. Très important pour la photographie, l'astrophotographie. Donc voilà, c'est un tout autre niveau et pour le coup, c'est compliqué de vouloir démarrer dans ça.
Je vous remettre en perspective, le nouvel iPhone, il coûte combien? Il coûte 1200 euros ou un truc dans ce goût-là. Donc c'est un budget, mais il faut avoir des priorités dans la vie.
Voilà, moi en tout cas, je veux dire, pour ce prix-là, ça pour le coup, mon télescope, vous savez combien ça m'a coûté? Ça, c'est à cause de ce que je suis en Gaulle, par contre. C'est tout à fait normal. Je l'ai payé, alors vous voyez, je me disais 400 euros, je l'ai payé 1000 euros au total.
Ah oui, avec quoi doigts, les accessoires? Ah non, taxes, les douanes.
Etc. Non, juste en douane, le surplus là, c'est la douane.
Mais je 600 euros de douane, putain.
Je blaguais à moitié, hein. J'en étais sûr qu'en Guadeloupe, on se faisait en truffer.
Non, mais parce qu'en vrai, c'est tellement énorme le truc qu'ils ne sont pas empêchés de.
Ouais. Mais quand c'est deux fois le prix, on dit toujours que quand les prix d'expédition coûtent plus cher que l'objet lui-même, c'est de l'arnaque. La douane.
Quelle honte.
Mais je suis en train de me dire, je le chéris mon télescope. Et je veux dire qu'en vrai, je me dis, ça en vaut la peine pour le ciel que j'ai. Au moins, je peux vraiment faire profiter.
C'est pour se venger, les douaniers, mais c'est les douaniers de là-bas, de Paris, tu vois, ils font la gueule, ils savent où ça va, ils disent, on va les faire taxer là, avec leur beau temps.
Toi, la Voie lactée, excuse-moi, je vais pas me plaindre, hein, c'est sûr. Donc voilà.
Oh là là.
Bon, bravo Loïc, voilà. Tu nous as donné
pour résumer.
Je précise, Lo, tu disais, tu parlais du podcast qu'on est mis, on rappelle que pour ceux qui écoutent, vous avez la possibilité aussi de voir les photos qu'on donne si vous allez sur YouTube, puisque le podcast est aussi sur YouTube en version vidéo, donc vous pouvez reconsulter ça sans problème, voilà.
Mmh. Et bon, après, j'ai toujours pas parlé. Après, il manquait juste après quelques trucs, c'est bon, conclure. Et enfin, j'aime bien, c'est une petite conclusion belle. Et après, et encore un petit truc. Alors, ainsi, donc, on rappelle, l'astronomie n'est qu'une manière parmi tant d'autres de se rendre compte de la place qu'on tient dans l'univers. Hein, et ce, même sans se rendre compte, puisque c'est le cas dans la vie de tous les jours. Donc, c'est l'astronomie qui apporte tout ce qu'on a aujourd'hui, la soif de découverte, ce qui nous amène à toujours nous poser plus de questions, d'aller toujours plus loin dans la compréhension et de ce qui nous entoure. C'est ainsi qu'on peut dire que c'est cela l'astronomie. Que c'est rien et tout.
Oh, c'est beau.
C'est beau. Et la mienne, elle est nulle. Attends, je vais réécrire.
C'est pour comme Nono. Fais vite, hein. Parce que plus... je fais gagner du temps si tu veux.
Vas-y, parle.
Ça tombait bien, Loïc, puisque moi, c'est qu'en début du mois, avec ma femme, on est allé au Planétarium. Où t'es assis en mode salle de ciné, tu regardes.
Les sièges
arrondis au plafond. Et c'était un truc très simple, quoi. Non, c'était super. Oui, en vrai, j'ai failli m'endormir parce que t'es tellement bien assis. Et t'es un peu incliné, ma femme elle me tape et dit tu ronfles, je dis non.
Tu mens,
non, c'est et pas c'était vrai. Super cool, la fille elle parlait tout, c'est... en fait c'est super cool, t'es tellement posé, ça a duré une heure et c'est cool, je conseille, j'avais jamais été au Planétarium.
Mais c'est génial le Planétarium,
et
j'ai jamais
vraiment génial. Il y a plein de thèmes, plein de choses et les gens qui racontent ça sont assez bons en tout cas pour la personne.
Venez
à
la cité de l'espace.
L'objectif c'est de te transporter en fait, tu vois, donc on te met vraiment à l'aise, t'as ta Planétarium, t'as la vue, mais genre tout le temps.
Ah, c'est énorme. En fait.
C'est super, ouais. Et c'est là justement que j'allais y venir, que peut-être qu'à l'avenir, on pourra faire plus dans les planétariums grâce à un logiciel. Ah, et... c'est le moment où je voulais en parler un petit peu, vite fait. Pour pas faire gagner du temps déjà à Neno, bien sûr, mais aussi pour en parler parce que c'est important. Ah, ben, c'est... Okay. Bah, en fait, c'est un logiciel qui vraiment vaut le pesant d'or. D'ailleurs, niveau francophone, bah, il a du mérite. C'est que ce logiciel s'appelle Space Engine, pour résumer vite fait.
Attends.
Et il vous permet...
Redis-le moins vite, il s'appelle...
Space Engine. Voilà, excusez-moi. Ouais. Désolé, parce que l'excitation commence à augmenter. Donc
ah oui, non, mais là,
on va se calmer.
Folie.
Voilà. Et donc, c'est un logiciel qui vous permet, pour être très global, si je réponds à une question, si je peux vous répondre à une question, c'est si vous avez toujours voulu aller quelque part dans l'univers, ça serait où ? Eh ben moi, je vous donne une réponse à cette question-là.
Sur Mars, donc, voilà. Parce qu'il y a des femmes à trois nichons.
Ça pourrait être sur Mars, ça pourrait être dans les années
Saturne,
ça pourrait
être dans une galaxie lointaine. Proxima du Centaure.
Ça pourrait être, ben, on pourrait aller n'importe où en fait. Et ce logiciel-là, c'est le premier, je pense, de ce genre à le faire. Alors, on connaît bien Elite Dangerous qui, lui, reproduit la Voie lactée entière, hein, pour citer vite fait un jeu connu. Mais lui, il va énormément plus loin puisqu'on a l'univers entier dans son ordinateur. Mais vraiment, et je ne rigole pas avec le mot, je suis très littéral, entier dans son ordinateur. On a toutes les planètes, toutes les galaxies, toutes les étoiles de l'univers.
Mais comment ils font c'est forcément. Faux quoi.
Ça, non, c'est inventé. Alors ça, mais c'est simple, c'est une technologie qu'on utilise dans énormément de jeux aujourd'hui, la génération procédurale.
Oui.
Simplement. Le logiciel n'a pas de but prédictif.
C'est une sorte d'univers parallèle.
En gros, alors c'est pas un univers parallèle pour le coup parce que ça inclut le nôtre. Faut y penser. Il y a tout ce qu'on connaît qui est catalogué dans ce logiciel. En revanche, ce qu'on connaît pas et lui extrapoler, c'est plutôt une forme d'extrapolation avec de la génération procédurale. Donc tout ce qu'on connaît de l'univers, on va l'extrapoler à générer un univers possible. Qui contient le nôtre, parce que enfin c'est le nôtre, mais ça reste un univers possible, tout simplement.
C'est assez fou.
Et c'est énorme. Donc franchement, et déjà graphiquement il est magnifique, photoréalistiquement il se rapproche très bien de la réalité. Vous allez des fois confondre des photos de ce logiciel et de vraies photos, vous allez pas en croire vos yeux. Aussi, bah, que ce soit scientifiquement au niveau de la génération, les planètes sont très bien faites, très réalistes je trouve quand même. Ça pourrait être amélioré, mais c'est déjà super. Enfin voilà, un énorme travail voilà. Et bah, pour le coup, on est parmi les premiers, côté francophone, à en faire quelque chose de ce logiciel, puisque le gars qui l'a créé, il a créé au départ un moteur de jeu là-dessus. Et on a une entreprise française, du coup, qui a fait quelque chose avec lui, avec ce gars qui a créé ce logiciel. Donc c'est le premier à faire ça. C'est une entreprise française, je ne me rappelle plus du nom. Ils ont créé un jeu en VR basé sur ce moteur. Et donc, bah, ils ont gagné un prix, voilà. Vive les Français. Parce que, du coup,
c'est un logiciel gratuit ou il est payant ?
Il est payant sur Steam. En gros, acheter l'univers, 20 euros, tarif, voilà.
D'accord.
Pour
l'univers, ça va.
C'est pas trop cher. Enfin, c'est moins cher que les frais de douane.
Bah, je veux dire, une console, t'achètes plus cher l'univers. T'en rends compte ?
Ah oui, mais en Guadeloupe, c'est 20 euros plus frais de douane. Même pour Steam.
Bah, Heureusement qu'on télécharge, c'est numérique. Donc.
À bientôt des frais de douane pour le numérique.
Donc voilà, non mais voilà, au moins je t'en parlais, je ne veux pas, donc pas, c'était trop parlé là-dessus.
Non, mais si tu fais bien, tu fais bien, sensibiliser les gens.
Ça, j'ai pas pensé, j'ai pas mis des images, j'aurais voulu pouvoir mettre vite fait du logiciel pour donner un aperçu. Mais
vous pouvez aller sur Steam, hein, Space Engine, Space Engine. Pour les non-anglophones, donc, les tchèques, et faites-vous plaisir,
eh bien,
vous
merci.
Connaissez des gens qui sont fans d'espace,
à nouveau,
vous pouvez découvrir. Ouais.